Le camp de Chartres.
La plus belle, mon neveu, la plus belle. Savez ce que m'écrit le pape dans une lettre du 28 novembre, mais dont l'expédition a dû être quelque peu différée, ou bien dont le chevaucheur qui me la portait est allé me chercher où je n'étais pas, puisqu'elle ne m'est parvenue qu'hier soir, à Arcis. Devinez. Eh bien, le Saint-Père, déplorant le désaccord que j'ai avec Nicolas Capocci, me fait reproche du manque de charité qui est entre nous. Je voudrais bien savoir comment je pourrais lui témoigner charité à Capocci. Je ne l'ai point revu depuis Breteuil, où il m'a brusquement faussé compagnie pour aller s'installer à Paris. Et qui donc est fautif du désaccord, sinon celui qui, à toute force, a voulu m'adjoindre ce prélat égoïste, borné, uniquement soucieux de ses aises, et dont les démarches n'ont d'autre dessein que de contrecarrer les miennes. Le peu général, il en a cure. Tout ce qui lui importe, c'est que ce ne soit pas moi qui y parvienne. Manque de charité. La belle chose. Manque de charité. J'ai bonne raison de penser que Capocci tripote avec Simon de Bussy, et qu'il fut pour quelque chose dans l'emprisonnement de Phébus, lequel, je vous rassure, oui, vous le saviez, fut relâché en août. Et grâce à qui? À moi, ça vous ne le saviez pas, sous la promesse qu'il rejoindrait l'hoste du roi. Enfin, le Saint-Père veut bien m'assurer qu'on me loue pour mes efforts et que mes activités sont approuvées non seulement par lui-même, mais par tout le collège des cardinaux. Je pense qu'il n'en écrit pas autant à l'autre. Mais il revient, comme il l'a déjà fait en octobre, sur son conseil d'inclure Charles de Navarre dans la paix générale. Je devine aisément qui lui souffle cela. C'est après l'évasion de Friquet de Fricamp que le roi Jean décida de transférer son gendre à Arleux, une forteresse de Picardie, où tout autour sont des gens fort dévoués aux Dartois. Il craignait que Charles de Navarre à Paris ne bénéficiât de trop de complicité. Il ne voulait pas laisser Phébus et lui dans la même prison, voire la même ville. Et puis, ayant bradé l'affaire de Breteuil, comme je vous le contais hier, il revint à Chartres. Il m'avait dit « nous parlerons à Chartres », j'y fus, moi, tandis que Capocci faisait le vaniteux à Paris. Où sommes-nous ici? Brunet, le nom de ce bourg. Et Poivre, avons-nous passé Poivre? Ah bon, c'est en avant. On m'a dit que l'église en était digne d'être regardée. D'ailleurs, toutes ces églises de Champagne sont fort belles, c'est un pays de foi. Oh, je ne regrette pas d'avoir vu le camp de Chartres, et j'eusse voulu que vous le vissiez aussi. Je sais, vous avez été dispensé de l'ost afin de suppléer votre père malade pour contenir les Anglais, vaille que vaille, hors de Périgord. Cela vous a peut-être sauvé d'être aujourd'hui couché sous une dalle dans un couvent de Poitiers. Peut-on savoir? La Providence décide. Alors, imaginez Chartres. 60 000 hommes, au bas mot, campant dans la vaste plaine que dominent les flèches de la cathédrale. L'une des plus grandes armées, sinon la plus grande, jamais réunie au royaume, mais séparée en deux parts bien distinctes. D'un côté, alignées en belles files par centaines et centaines, les tentes de soie ou de toile teinte des bannerets et des chevaliers. Le mouvement des hommes, des chevaux, des chariots, produisait là un grand fourmillement de couleurs et d'acier sous le soleil à perte de vue. Et c'était de ce côté que venaient installer leurs éventaires roulants les marchands d'armes, de harnais, de vin, de mangeailles, ainsi que les bordeliers amenant de pleins chariots de filles sous la surveillance du roi des ribauds, dont je n'ai toujours pas retrouvé le nom. Et puis, à bonne distance, bien séparés, comme dans les images du jugement dernier, d'un côté le paradis, de l'autre l'enfer, les piétons, sans autre abri sur les blés coupés qu'une toile soutenue par un piquet, quand encore ils avaient pris le soin de s'en munir. Une immense plèbe au hasard répandue, lasse, sale, désœuvrée, qui se groupait par terroir et obéissait mal à des chefs improvisés. D'ailleurs, à quoi eût-elle obéi? On ne lui donnait guère de tâches, on ne lui commandait aucune manœuvre, toute l'occupation de ces gens, c'était la recherche de la nourriture. Les plus malins s'en allaient chaparder du côté des chevaliers, ou bien piller les basses-cours des hameaux voisins, ou bien braconner. Derrière chaque talus, on voyait trois gueux assis sur leurs talons autour d'un lapin en train de rôtir. Il y avait de soudaines ruées vers les chariots qui distribuaient du pain d'orge à des heures irrégulières. Ce qui était régulier, c'était le passage du roi, chaque jour, dans les rangs des piétons. Il inspectait les derniers arrivés, un jour ceux de Beauvais, le lendemain ceux de Soissons, le surlendemain ceux d'Orléans et de Jargeau. Il se faisait accompagner, entendez bien, de ses quatre fils, de son frère, du connétable, des deux maréchaux, de Jean d'Artois, de Tancarville, qui sais-je encore, d'une nuée d'écuyers.